Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Et merci à vous de nous rejoindre sur Europe 1. On se réveille ensemble et on écoute Le Monde Changer avec Christophe Lamarre pour un nouveau journal. Bonjour Christophe.
Bonjour Théo.
6h passées de 1 minute sur Europe 1.
La totalité du montant de l'activité allait nous être prélevée. Donc ça représente plus de 100 euros par mois à régler là sur avril, mai, juin.
Payer pour des cours qui n'ont pas été donnés. À Paris, la mauvaise surprise pour des parents d'élèves dont les enfants ont été privés d'activité en raison du Covid. La ville vient de leur envoyer la facture. En ce week-end de Pâques, le pape a adressé sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, le souverain pontife qui lance un appel à l'union en pleine pandémie. Le vaccin doit profiter à tout le monde, dit-il. Et puis la suite d'une affaire tentaculaire en Corse. La justice enquête autour de la bande dite du Petit Bar, un établissement au cœur d'une gigantesque machine à blanchir l'argent sale.
À suivre, le journal des sports de Lénaïc Monnier et mon invité inattendu, un ancien gardien de but professionnel qui a donc raccroché les gants et délaissé les terrains de foot pour devenir aumônier une fois sa carrière terminée. Très bon réveil, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Il y a le couvre-feu et maintenant le confinement, le troisième depuis le début de la pandémie, le deuxième si l'on tient compte du calendrier scolaire. Et cela a son importance pour tous les parents qui, dès septembre, avaient inscrit leur enfant à une activité comme la danse ou le piano, par exemple. Covid oblige, les cours n'ont pas eu lieu ou alors très peu. On pourrait croire que la facture à régler s'en trouverait allégée. Eh bien pas du tout. À Paris, les parents vont devoir payer pour l'année écoulée, Carole Ferry.
Exactement, c'est le cas de cette maman. Elle avait inscrit sa fille Marion à un cours de danse au centre d'animation de son quartier à la rentrée. Les prélèvements prévus à l'automne n'ont pas eu lieu. Et il y a quelques jours, surprise, elle reçoit un courrier de la mairie de Paris.
Nous indiquant que la totalité du montant de l'activité allait nous être prélevée. Donc ça représente plus de 100 euros par mois à régler là sur avril, mai, juin. Nous demander de régler en si peu de temps la totalité de la somme, ça c'est exagéré.
D'autant que les personnes qui assurent ces activités sont actuellement en chômage partiel, payées donc par l'État. Mais selon la mairie de Paris, c'est une question d'équité par rapport aux personnes qui ont réglé en une seule fois au début de l'année. Alors nous nous sommes posé la question de savoir comment ça se passait ailleurs. Eh bien, le directeur général des 11 centres d'animation de Bordeaux, Jean-Luc Benguigui, a trouvé lui une autre solution pour ceux qui avaient déjà payé toute l'année.
Nous avons trouvé que le bon sens était de permettre aux personnes d'être remboursées. Alors certains ont eu des avoirs parce que ce sont des habitués, je dirais. Mais de toute façon, si nous sommes incapables de proposer l'activité, bien sûr que nous ne nous sommes pas posé la question et que le bon sens voulait que nous les remboursions.
Dans d'autres villes comme Marseille, Lille ou Lyon, où il n'y a pas de système équivalent, ces activités sont déléguées à des associations qui soit ont choisi de rembourser, soit ont proposé des avoirs.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
La crise sanitaire qui a largement occupé le discours du pape François en ce week-end de Pâques, pas tout à fait comme les autres, y compris en Italie, dont les trois quarts du pays sont encore confinés.
Oui, dans son traditionnel message, le souverain pontife a consacré son allocution aux plus faibles et aux plus démunis. Le pape François qui a aussi lancé un appel à la solidarité pour les vaccins. Tout le monde doit y avoir accès.
En ce temps où nous sommes tous appelés à combattre la pandémie et où les vaccins constituent un instrument essentiel pour cette lutte, dans l'esprit d'un internationalisme des vaccins, j'exhorte toute la communauté internationale à un engagement partagé afin de surmonter les retards dans leur distribution et en favoriser le partage, en particulier avec les pays les plus pauvres.
Le pape François à propos recueilli par Blandine Hugonnet.
En France, la situation reste plus que jamais tendue dans les hôpitaux. 5341 malades du Covid en réanimation. 185 décès supplémentaires enregistrés hier.
Et le pays approche lentement mais sûrement la barre des 100 000 morts. Et l'on s'en doutait, la maladie ne frappe ni ne tue de la même manière selon que l'on est riche ou pauvre. Mais pas seulement. L'INSEE publie d'ailleurs une étude qui montre que les immigrés sont particulièrement touchés par la mortalité. Ils représentent 50%, presque 50%. Des décès, Laura Taouchanov.
Oui, en Île-de-France et dans le Grand Est, deux fois plus de décès dans les communautés asiatiques et maghrébines. La raison, eh bien, ce sont deux régions touchées de plein fouet par la première vague, avec en plus une forte précarité chez les immigrés, comme le souligne Valérie Roux. C'est la chef du département de la démographie à l'INSEE.
Ces populations vivent plus nombreux dans des logements plus petits, ce qui peut favoriser la transmission du virus et travaillent un peu plus souvent que les personnes nées en France dans les secteurs clés qui, en mars-avril 2020, ont continué à travailler.
Et alors que les comorbidités sont plus fréquentes chez les personnes nées à l'étranger, leur accès aux soins diminue face à la surcharge de travail des soignants. Patrick Simon est chercheur à l'INED, c'est l'Institut d'études démographiques.
Le fait qu'il n'y ait pas effectivement de traduction, ou en tout cas plus difficilement des traductions, parce que quand même elles existent, hein, rend la communication plus difficile et ça peut amener soit des personnes à ne pas y aller, soit ne pas pouvoir communiquer dans de bonnes conditions avec le service, avec le personnel médical.
Une surmortalité encore plus frappante chez les hommes. Si on prend les immigrés africains, par exemple, les décès augmentent de 131% contre 88% pour les femmes.
Enquête signée Laura Taouchanov.
6h06 sur Europe 1. Après Bordeaux, Lyon et Strasbourg, Poitiers se retrouve à son tour au cœur d'une polémique.
Particularité de ces quatre villes, elles sont toutes dirigées par un maire écologiste. À Poitiers, donc, la maire Léonore Monconduit déclare la guerre à l'avion. Elle estime que l'aérien ne devrait plus faire partie des rêves d'enfants. Urgence climatique oblige, le conseil municipal a décidé de baisser les subventions accordées à deux aéroclubs de la ville. Une décision injuste pour le président de l'aéroclub du Poitou, Jean-Marie Arnaud.
On prend ça vraiment comme une punition, qui est pour nous injuste. J'ai la moitié des membres qui ne sont pas vraiment, disons, concernés par le vol moteur, ceux qui pratiquent l'aéromodélisme et qui pratiquent le planeur. Lorsque Madame la maire dit que l'aviation ou l'avion ne doit plus faire rêver les enfants, je trouve ça, disons, vraiment dommage. La France a toujours été le berceau de l'aviation. C'est un peu vouloir punir tous ces gamins qui ne rêvent que de voler, parce que croyez-moi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Alors la classe politique à droite, mais aussi à gauche, s'est emparée de l'affaire pour dénoncer cette décision, déclaration autoritaire et moribonde, a réagi le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari. Coucou Poitiers, les rêves sont toujours libres, signé Icar, a réagi de son côté Jean-Luc Mélenchon. La maire Léonore Monconduit leur a répondu dans une vidéo publiée sur Twitter.
Cette décision, nous avons dû la prendre pour les aéroclubs, nous avons aussi dû la prendre pour d'autres associations, parce que nous devions absolument dégager des fonds pour soutenir deux autres types de clubs. Ceux qui étaient particulièrement menacés par le contexte du Covid que nous subissons depuis un an et ceux qui s'engagent particulièrement pour des actions en faveur des quartiers prioritaires. Cette décision, elle est aussi en cohérence avec le projet écologique global que nous portons. Il s'agit de dire qu'aujourd'hui, l'argent public ne doit plus financer, encourager les activités qui sont fondées sur la consommation de ressources épuisables et les sports motorisés en font partie. Souvent, l'écologie, ce n'est pas une question de noir ou blanc, c'est une question de priorisation, c'est une question de sobriété. De quoi avons-nous vraiment besoin ?
La maire écologiste de Poitiers, Léonore Monconduit.
En Corse, la justice s'intéresse de très près à la bande du Petit Bar.
Et c'est le nom de cet établissement soupçonné d'être au cœur d'une activité mafieuse. Mercredi dernier, une dizaine de personnes, dont une figure du banditisme, ont été interpellées, placées en garde à vue. Ils pourraient être mis en examen comme une dizaine d'autres protagonistes dans le volet financier de cette affaire. Car au-delà des soupçons d'activité criminelle, eh bien la bande du Petit Bar aurait aussi blanchi des dizaines de millions d'euros, Guillaume Bier.
Oui, une cinquantaine de millions d'euros blanchis, c'est l'estimation des enquêteurs et des juges, des sommes colossales au départ en liquide qui transiteraient ensuite sur des comptes à l'autre bout du monde avant d'être réinvestis notamment dans l'immobilier. Tout cela est apparu en marge de l'enquête sur la tentative d'assassinat de Guy Orsoni. Mais grâce à des micros placés chez les suspects, les enquêteurs ont entendu les conversations et le bruit quasi quotidien des machines à compter les billets. Alors d'où vient cette fortune ? S'agit-il d'extorsion, de trafic de drogue ? C'est ce que la justice tente d'éclaircir. Pas simple, dans un dossier où il y a eu des fuites. La veille du premier coup de filet, les principaux suspects ont été prévenus. Ils ont eu le temps de faire le ménage, comme on dit, et pour certains de s'enfuir. Trois d'entre eux sont d'ailleurs toujours recherchés. Grosse tension en Corse, la police judiciaire s'est vue retirer le dossier. Plusieurs policiers ont été mutés, une enquête est en cours. Les juges, eux, ont transmis toute l'affaire du Petit Bar aux gendarmes qui tentent de boucler l'un des plus gros dossiers judiciaires de ces 20 dernières années sur l'île de Beauté.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1.
Enfin, comment s'évader, Christophe, et se changer les idées en ces temps de Covid ?
Eh bien, des artistes et des galeristes ont trouvé la solution, Théo. Ils prêtent des œuvres à des particuliers pour un temps donné. Attention, hein, c'est 2 mois. Si la peinture vous plaît, eh bien, vous pouvez l'acheter. Passez ce délai. L'opération a été lancée sur Instagram avec un objectif : promouvoir l'art et la culture, alors que les musées et les galeries sont fermés. Diane Chenouda.
Vous allez sur le compte Instagram, une œuvre à la maison, et si vous avez un coup de cœur pour une peinture ou une sculpture qui se trouve dans un rayon de 10 km autour de chez vous, envoyez un mail ou une lettre motivée à l'artiste qui vous la prêtera pour 1 mois ou 2. Le peintre Olivier Massemonteil est à l'initiative de l'opération.
on s'aperçoit qu'il y a une grande demande de la part du public qui commence à ressentir vraiment profondément ce manque de culture. Moi, il y a un truc que j'adore en France qui s'appelle les artothèques, où on peut aller emprunter des œuvres comme une bibliothèque. Et je me suis dit, on devrait essayer de faire ça, de faire une sorte d'artothèque géante nationale et de lancer une sorte de mouvement où les centres d'art, les galeries, les ateliers d'artistes organisent des concours dans un rayon de 10 km autour de leur structure et puissent permettre à quelqu'un d'avoir une œuvre chez lui pendant ce temps de confinement.
Certaines œuvres sont à vendre, mais pas toutes. L'idée, c'est de toucher aussi des gens qui ne vont pas spontanément ni dans les galeries ni les musées, et donc d'élargir encore un peu plus l'accès à l'art.
Diane Chenoudaï, pour découvrir cette opération, il faut donc aller sur la page Instagram et taper « une œuvre à la maison ». Attention, tout attaché.
On a bien noté, merci beaucoup. C'était le journal de Christophe Lamar, il est 6h11.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Et on retrouve Lénaïque Monnier pour les sports avec Lénaïque, une victoire en football qui fait du bien à l'Olympique de Marseille.
2-0 face à Dijon et le compte est bon après 31 journées. Cela fait 3 points de prix. Il y a des progrès, estime l'entraîneur marseillais Sampaoli.
L'objectif arrivera à travers les progrès qu'on fera en tant qu'équipe. Lors du match précédent, on a perdu. L'objectif, c'est vraiment de gagner. Et pour ça, il faut mieux jouer actuellement. Être capable d'aider l'équipe à aller le plus haut possible à la place qui est la sienne par rapport à son histoire. Et pour ça, il faut jouer, être capable d'attaquer, plus de volume en attaque. Et à partir de là, on pourra rêver d'une position au classement. Il est difficile d'avoir des objectifs tout de suite. Un match peut donner des espoirs, mais vraiment, il faut mettre en place une philosophie de jeu. Et on y travaille actuellement pour être à la hauteur de ce club.
L'entraîneur marseillais Sampaoli avec Stéphane Frangy. Pour l'instant, l'OM est 6e à un point de Lens et donc à un point d'une place européenne.
Et toujours en football et toujours en Ligue 1, un nom, Lénaïque, est sorti de l'anonymat hier, celui d'Étienne Green.
Un nom prédestiné, choisi par des parents fans de synthé, sa mère française, son père anglais, Monsieur Green, ça ne pouvait pas mieux tomber.
Prédestiné,
et prédestiné. Et en plus, hier, il a un peu bouclé la boucle, puisqu'à 20 ans, le jeune homme, qui est le troisième gardien de la SSE, a débuté sa carrière en stoppant un pénalty face à Nîmes.
Rien que ça, football toujours. Après-demain, c'est Bayern-PSG en Ligue des Champions.
Oui, et les deux clubs ont passé des week-ends très différents. Sans Lewandowski, le Bayern a fait un grand pas vers un 9e titre consécutif, en gagnant chez son dauphin Leipzig. A l'inverse, vous le savez, Paris a chuté face à Lille. Et pourtant, ça n'inquiète pas Willy Sagnol. L'ex-défenseur du Bayern voit Paris passé.
Je pense vraiment que le PSG a les armes pour contre-attaquer cette équipe, pour faire face à ce bloc munichois qui va chercher des solutions. Parce que c'est une équipe qui aime travailler avec le ballon, qui aime chercher des solutions, qui prend son temps. Mais je pense que l'absence justement de Lewandowski devant risque à un moment donné peut-être de les forcer à peut-être aller un petit peu plus vite que nature, à jouer un peu contre nature. Et c'est là où, pour moi, le PSG doit en profiter.
Willy Sagnol qui répondait à Lionel Rosso hier soir.
L'actualité sportive également marquée par un doublé français historique hier en MotoGP.
C'est la catégorie reine, celle des grosses cylindrées. Victoire de Fabio Quartararo devant Johann Zarco à Doha. De quoi mettre en lumière une discipline parfois un peu snobée par les Français. Écoutez ce qu'en pense Claude Michi, c'est le promoteur du Grand Prix de France.
Il y a un décalage médiatique, entre guillemets. C'est que le Grand Prix de France, c'était première influence mondiale il y a 2 ans. Donc, si vous voulez, on est au top niveau. Mais là, on n'avait pas de pilote qui portait français la victoire. Et c'est le résultat qui fait l'image du sport. Et en plus, le sport mécanique, avec toutes les notions un peu écologiques et tout derrière, les médias ont peut-être un peu de mal. Mais là, maintenant, ils vont être obligés, quoi. Ils vont être obligés. C'est magique.
Claude Michi avec Axel May, Quartararo, 21 ans, et Zarco qui prend la tête du championnat du monde.
Fantastique, et c'est aussi la une du journal L'Équipe. Absolument. Ce matin. Merci beaucoup Lénaïque.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1. À 6h15, nous sommes donc aujourd'hui le lundi de Pâques, fin de l'un des week-ends les plus importants de l'année pour les catholiques. Et je reçois donc ce matin un invité inattendu, passé des terrains de foot professionnels à un quotidien d'aumônier dans une abbaye. Bonjour.
Oui, bonjour. Guillaume Barbuse.
Bienvenue sur Europe 1. Voilà. Guillaume Barbuse, ancien gardien professionnel, vous présente, champion de France avec le Racing Club de Lens, notamment en 98. Reconverti désormais en tant qu'oblat bénédictin en Côte d'Or. Vous nous racontez ce parcours singulier dans quelques secondes. À tout de suite. Avec mon invité inattendu ce matin, il a donc raccroché les crampons pour mieux embrasser une autre vocation, celle de l'église. 17 ans de carrière, Guillaume Varmuz, comme gardien de but du RC Lens, je le disais, mais aussi d'Arsenal, Dortmund, puis Monaco. 572 matchs pro au compteur. Et à 50 ans, on vous retrouve donc au Blas Bénédictin, en Côte d'Or. La foi a toujours fait partie de votre vie, de votre carrière ?
Oui, elle était, a toujours été présente, mais j'ai envie de dire, elle était plutôt sous-jacente, ou plutôt, elle a fait partie un petit peu comme tous les baptisés, on va dire de la tradition, mais il y a eu des événements particuliers, notamment une blessure au genou, et puis une deuxième blessure, et puis une entrée pleinement, ou une redécouverte plutôt, dans les sacrements de l'Église catholique, à travers le baptême, puisque j'ai été baptisé, mais surtout les sacrements de la réconciliation, et puis de s'approcher de l'Eucharistie, voilà. Donc à travers ce parcours de vie, on va dire la redécouverte des sacrements.
Qu'est-ce qu'elles vous ont fait réaliser, ces blessures d'abord à Lens et puis une deuxième à Monaco, effectivement, à la fin de votre carrière, ou qu'est-ce qui fait que vous aviez perdu aussi les distances, vous aviez pris vos distances avec la foi entre ces blessures, il vous a fallu une deuxième blessure, qu'est-ce qu'elles vous font réaliser, c'est ça que je veux dire?
En fait, pour être totalement lucide et clair, c'est quelque chose qui s'était mis au fond de la poche, voilà, la prière, le catéchisme et tout ça quand on est enfant, voilà, dans mon parcours n'était pas forcément évident. Une première blessure m'a révélé amèrement que, enfin pas amèrement, mais m'a fait prendre conscience d'un vide existentiel, puisqu'à un moment donné je me suis retrouvé sur cette civière et sur cette opération et peut-être ne plus pouvoir jouer au football, et donc devant moi est apparu quelque chose à laquelle je n'avais jamais réfléchi et pensé, qu'il y avait une autre dimension en moi en tant que qu'il n'y avait pas que le foot dans la
qu'est-ce
vie,
que j'ai d'autre voilà. Que le football.
Exactement, et puis surtout le destin, ma destinée en tant qu'homme, qu'est-ce que je vais devenir, où je vais, quoi. Voilà. Et donc tout ça m'a rapproché naturellement de la prière dans un premier temps.
Voilà. Vous avez donc pris votre retraite en 2007 pour devenir oblat bénédictin à l'abbaye de Flavigny sur Oserin, c'est en Côte d'Or. Oblat bénédictin pour les profanes, entre guillemets, ça consiste en quoi exactement ?
En fait, si vous voulez, dans ce cheminement, c'est progressif. Donc d'abord, c'est ce vide, c'est la prière, le retour à la foi, ensuite le retour à la pratique. Et quand j'ai arrêté, donc à la suite de mon passage à Monaco, un petit sanctuaire de Notre-Dame de Lagué, qui est pas très connu là entre Monaco et Nice, et ça a été vraiment l'approfondissement encore plus de ma foi avec le sacrement de la réconciliation, de la confession. Et en rentrant au pays après la carrière, j'ai voulu redécouvrir la Bourgogne, ma Bourgogne natale, où il y a Parel Monial, c'est un haut lieu catholique, et puis l'abbaye de Flavigny, il y a le curé de la paroisse m'a dit va voir là-bas, c'est pas mal, et puis ils font des retraites individuelles, et donc ça m'a complètement plu en tant que vraiment cette sensibilité un peu de silence, voilà, l'abbaye. Et donc être oblat, c'est quoi? C'est pour prendre une image de foot. Les joueurs sont les moines qui eux donnent leur vie au quotidien, et puis moi c'est comme si je prenais une carte de supporter, quoi. J'étais tout le temps avec eux, quoi, si vous voulez.
Voilà, vous êtes abonné, mais vous n'êtes pas directement sur le terrain.
C'est ça.
Est-ce que la foi,
c'est
la
ça.
Croyance religieuse, Guillaume Varmuz, vous a apporté des choses dans votre carrière? Vous faisiez partie de ces joueurs qu'on voyait se signer systématiquement avant de rentrer sur la pelouse.
Oui, bien sûr. Il faut être prudent du côté magique de l'affaire. Elle m'a apporté beaucoup de sérénité, de certitude intérieure. C'est-à-dire que dans ma préparation de match, pour aller chercher des bons matchs, pour aller chercher bien se préparer, me relever de ma blessure, enfin toutes des choses réellement effectives.
C'est des choses dont on parle aussi entre joueurs, avec des coéquipiers qu'on partage ou qu'on garde pour soi au contraire.
Je pense que dans le très haut niveau, il y a très peu d'athéisme, parce que les joueurs, on arrive à un tel niveau d'entraînement, à un tel niveau qu'après, on est vraiment dans quelque chose, dans une transcendance, en fait. On recherche une transcendance. Alors après, ce sont les confessions, les confessions sont différentes, ce sont les amitiés, c'est très pudique, hein. Donc, il m'est arrivé quelquefois de partager, de discuter, d'aller prier, d'aller à la messe avec des joueurs, mais ça reste très pudique. Je pense que chacun vit ça, sauf si évidemment on a la même confession et qu'on partage la même chose.
Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous partager votre itinéraire inattendu, Guillaume Varmuse, en ce lundi de Pâques. Merci d'avoir joué le jeu ce matin. Je vous souhaite de joyeuses Pâques et une très bonne journée.
Merci.
À bientôt.
À vous aussi, merci beaucoup. Au revoir.
Théo Manval.
Et votre 5-7 se poursuit en musique avec Sheila dans la partition d'Omblin Roche. C'est à suivre dans quelques secondes.
Europe 1.
6h24, sur Europe 1, à l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche, l'histoire qui se cache derrière un artiste, une chanson, un disque, et l'histoire d'une success story inattendue aujourd'hui, Omblin. Comment une chanteuse jugée démodée à la fin des années yéyé a retrouvé les sommets? Comment Sheila est devenue une reine du disco?
Jusqu'à concurrencer Gloria Gaynor et Donna Summer, Théo. Ouais, en 1977, personne ne s'attendait à cette métamorphose spectaculaire. Dans le plus grand secret, Sheila enfile un short à paillettes et se met à se dandiner sur des boîtes à rythme et des synthétiseurs.
On est là sur un virage assez inédit dans la variété française. Ouais, derrière ça, son producteur et mentor, Claude Carrère.
Oui, il se rend bien compte que la vague disco est en train de submerger les ondes radio et les boîtes de nuit. Sheila, elle vit une période compliquée, son divorce avec Ringo. Ses tubes qui prennent l'eau, elle a besoin de changement. Elle entre en studio avec un groupe de danseurs, les Black Devotion.
Mais par crainte d'une mauvaise réaction des fans, quand le 45 tours sort, le nom de Sheila n'apparaît pas sur la pochette.
Non, juste la lettre S. Bienvenue à SB Devotion. Love me baby with emotion, baby love me with
devotion. I see tenderness in your eyes. Et pendant que Sheila anonymement donc avec SB Devotion enflamme les pistes de danse avec Love Me Baby ici, du côté de sa garde rapprochée, on tente de faire diversion.
Avec un autre single de la chanteuse, L'Arche de Noé, qui sort en même temps, mais la supercherie est révélée. Le 45 tours de Love Me Baby est pressé avec une nouvelle pochette sur laquelle son nom est cette fois inscrit distinctement. Sur le petit écran des Français, Sheila et ses danseurs super lookés apparaissent en exclusivité dans l'émission de Guy Lux le 24 juin 1977.
Si l'Europe se laisse séduire par cette nouvelle Sheila qui scintille de toutes parts, l'Amérique reste pour le moment frileuse.
Et c'est là qu'interviennent les deux princes des clubs branchés new-yorkais. Ils sont chic, Nile Rodgers et Bernard Edwards.
Le duo Chic, c'est l'énorme succès, le Freak.
Des connaisseurs en matière de funk, on les entend. Des musiciens qui savent capter l'air du temps. Ils perfectionnent le personnage disco de Sheila, qui chante en anglais. Ils lui concoctent une musique pop-funk scintillante sur mesure. Et ils l'envoient carrément en orbite. Dans Télérama, la chanteuse racontera la surprise partie que je n'ai pas vécue à 18 ans. Je l'ai vécue sur le tard avec Spacer.
Can trace that a love will last Sheila en combi d'astronaute argenté entouré des Bee Devotion avec Spacer, extrait de l'album King of the World sorti en 1980, produit donc par Nile Rodgers et Bernard Edwards du groupe Chic.
Et sur son nouvel et 27e album qui s'appelle Venu d'ailleurs, qui est sorti vendredi, Sheila partage un duo avec le guitariste Nile Rodgers, la chanson Law of Attraction.
Merci Omblin de nous avoir fait funker, swinger comme ça depuis ce matin. Merci. On vous retrouve demain pour la partition L'histoire cachée derrière un morceau ou un artiste. Tous les jours avant le journal de 6h30 et la météo de Laurent Cabrol, ça se rafraîchit et, ouais, et ça s'humidifie.
Ben oui, le froid, c'est ce qu'il faut craindre le plus hein, dans cet épisode que nous allons vivre maintenant, parce que il va s'intensifier au fil des jours. Hein. Il n'est là pour l'instant, nous n'aurons que la moitié nord sous des températures. Allez, on ne va pas exagérer, hein, des températures entre 2 et 5 degrés. Mmh. Mais enfin, compte tenu de ce que nous avons vécu, c'est quand même très froid. 4 à Paris, c'est pas énorme à l'heure où nous parlons. Donc, et sur la moitié sud, il fait encore doux. Mais ça ne va pas durer, puisque le froid descend, vient, on l'a dit, du pôle. Il descend, il va gagner tout le pays. Et demain soir, nous aurons la France sous un temps tout à fait froid, bon, comme en avril. En avril, tu découvres pas d'un fil.
Proverbe tient toujours.
Nos ancêtres avaient raison. Ils n'avaient pas besoin des satellites pour le dire. Hein. Et donc, ces températures vont être froides dans les jours qui viennent, avec des périodes de beau temps. Parce que de beau temps, quand je parle de beau temps, c'est le ciel. Le ciel sera le plus souvent dégagé et nous n'aurons pas forcément de grosses intempéries. Alors, quand les intempéries seront là, ce sont des giboulées. Les giboulées seront parfois neigeuses. Mais ça ne durera jamais bien longtemps. Alors, par exemple, aujourd'hui, les températures maximales vont s'échelonner entre 9 et 20 degrés. Vous voyez que c'est quand même quelque chose de positif. Hein.
Ça reste assez correct. Merci beaucoup Laurent Cabrol. On vous retrouve dans une demi-heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Nous sommes le lundi 5 avril. Bon réveil, un nouveau journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Il est 6h30.
Ah oui, vraiment envie de profiter un peu du soleil, du beau temps marseillais, chouette week-end en famille, et on regrette pas et on profite vraiment vraiment à fond.
Au soleil avant de s'enfermer pour plusieurs semaines, direction Marseille dans une seconde où le beau temps va continuer en ce lundi de Pâques. On connaissait les restos clandestins, mais la polémique du week-end c'est l'éventuelle présence de ministres à leur table, les dernières infos à suivre. Et puis splendide podium avec deux Français en MotoGP hier soir à Doha au Qatar, Fabio Quartararo et Johan Zarco sont les héros du jour.
Juste après ce journal, direction les Sables d'Olonne, voir si les réfugiés du confinement ont bel et bien pris leur quartier. Et Yannick Moreau, le maire des Sables, nous y attend dans 10 minutes. Très bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un dernier jour de tolérance en ce lundi de Pâques avant d'appliquer strictement les restrictions de déplacement entre régions. Forcément frustrant quand on regarde la couleur du ciel de ces derniers jours. Nous partons à Marseille, d'autant mieux loti que le froid ne s'est pas encore abattu sur la ville. Le bord de mer était bondé hier, comme l'a vu Stéphane Frangy pour Europe 1.
Au pas de course, Alain profite à fond de cette journée ensoleillée. Petit footing direction la plage.
Oui, oui, je vais à la plage, je vais profiter du temps. Je vais bronzer un peu et plonger. Hein.
Comme ce grand sportif, ils sont nombreux à avoir fait des kilomètres pour profiter du bord de mer avant les restrictions. C'est le cas de Benoît, venu de la Drôme.
Il fait un temps merveilleux, vraiment formidable, on se régale. Ah oui, vraiment envie de profiter un peu du soleil, du beau temps marseillais. On s'est baigné là tout à l'heure, l'eau est vraiment agréable, très étonnant. Et chouette week-end en famille. Et on ne regrette pas et on profite vraiment, vraiment à fond.
Du monde pour profiter, du sable comme des espaces de sport. Par précaution, certains Marseillais font demi-tour.
Non, c'est pas possible de rester, les gens sont entassés. C'est trop là, c'est pas possible. Je vais rester 5-10 minutes et je vais trouver un autre coin, tranquille.
Et c'est ainsi que beaucoup ont privilégié au final les espaces verts de quartier.
On va pas aller se mélanger, prendre des risques exprès, on s'amuse, on est entre amis, voilà.
Oui, on est mieux à l'abri, plutôt que de rester confronté à la foule. Non, là, franchement, moi ça me stresse.
Et la météo qui devrait être clémente ici aujourd'hui encore. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
L'actualité politique, et c'est une affaire qui a provoqué une vague d'indignation ce week-end sur les réseaux sociaux. Des ministres déjeuneraient dans des restaurants clandestins.
Oui, tout est parti d'un reportage diffusé par M6 qui montrait des lieux dans Paris où seraient organisés ces repas interdits et dont l'un des responsables affirme qu'il déjeune lui-même avec des ministres. Alors Guillaume Bier, on a appris que le procureur avait ouvert une enquête judiciaire, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé.
Oui, ministre ou pas, les séquences vidéo diffusées par M6 sont déjà suffisamment éloquentes pour que le parquet de Paris décide effectivement d'ouvrir une enquête et de saisir la police judiciaire. Déjà, il suffit de quelques clics sur Internet pour reconnaître ces lieux de réception clandestine. D'abord, ce qui semble être le club privé ouvert par le chef ami des stars Christophe Leroy, celui, vous savez, où le menu peut atteindre 490 euros. Et puis l'autre salle de réception, celle du Palais Vivienne, propriété du médiatique collectionneur Pierre-Jean Chalençon. Briançon, qui proposait jeudi encore sur Internet un dîner champagne et caviar concocté par le même chef Christophe Leroy. Hier, certaines de ces invitations et menus en ligne ont subitement disparu, mais des captures d'écran ont déjà été maintes fois reprises par des internautes. L'enquête devrait donc se concentrer dans un premier temps sur ces deux endroits où des repas ont donc été servis en toute illégalité. Quant aux ministres qui déjeuneraient dans des restaurants clandestins, c'est ce qu'a affirmé Pierre-Jean Chalençon à M6. Là-dessus, il pourrait aussi être amené à s'expliquer devant les enquêteurs.
Guillaume Biet, chef du service police-justice d'Europe 1, je précise que Pierre-Jean Chalençon, dont vous parliez, se désigne comme l'auteur du témoignage anonyme diffusé par M6 et il affirme qu'il parlait sur le ton de l'humour.
À suivre donc. Demain commencera une semaine d'école à la maison, suivie de 15 jours de vacances pour tout le monde.
De quoi espérer une accalmie de l'épidémie, de quoi aussi avancer sur la vaccination. Les livraisons de doses vont permettre d'accélérer la cadence avec la montée en charge aussi des vaccinodromes. Alors, quoi de plus symbolique que le Stade de France qui sera opérationnel demain ? Pour Europe 1, Victor Dolande a pu assister au tout dernier réglage.
Dernier coup de perceuse pour fixer les boxes de vaccination, derniers ajustements dans le fléchage du public, tout est presque prêt. Et les jeunes employés de la ville de Saint-Denis prennent déjà des rendez-vous depuis 4 jours.
Votre rendez-vous est prévu pour le vendredi 9 avril de 14h30 à 14h35, d'accord ?
3000 personnes ont déjà réservé un créneau pour recevoir leur première injection. Sur place, Florent Vallée, directeur adjoint des opérations de la Croix-Rouge, détaille le processus de vaccination.
Dans le box, en fait, les gens vont venir, vont pouvoir s'asseoir sur la chaise ici. Le vaccinateur va pouvoir le désinfecter, puis faire le vaccin, puis orienter la personne vers la salle de repos.
Pour réaliser les injections, des vaccins Pfizer et Moderna, des médecins, des infirmiers, des étudiants, mais aussi des sapeurs-pompiers, comme l'explique le lieutenant-colonel de la brigade parisienne, Yann Lecor.
Dès mardi matin, 12 vaccinateurs, 12 pompiers secouristes qui sont formés et qui vont venir vacciner.
En tout, 80 personnes mobilisées 6 jours sur 7, des gros moyens pour un vaccinodrome aussi gigantesque que symbolique, comme l'explique Frédéric Poiseau, directeur de cabinet du préfet de Seine-Saint-Denis.
C'est le vaisseau amiral de la stratégie vaccinale dans le département de la Seine-Saint-Denis qui, je le rappelle, s'appuie sur un maillage territorial fin avec 24 centres de vaccination. Le Stade de France, c'est aussi un étendard de cette capacité de l'État à assurer une vaccination à grande échelle.
Première piqûre demain matin avec un objectif clair, 10 000 injections par semaine dans un premier temps. Et le double le plus rapidement possible.
Victor Dolande. Bernard Tapie est rentré hier après-midi avec sa femme dans son hôtel particulier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, quelques heures après le cambriolage et l'agression dont ils ont été victimes dans leur maison de Con-la-Ville en Seine-et-Marne, Damien Mestre.
Oui, réveillé en pleine nuit par 4 personnes, cagoule sur le visage et combinaison noire, Bernard Tapie reçoit des coups de matraque. Sa femme Dominique est agrippée par les cheveux, traînée sur le sol. Le couple est molesté avant d'être ligoté avec des câbles électriques par les voleurs. Finalement, Dominique Tapie réussit à s'échapper, à prévenir la voisine. Elle passera quelques temps aux urgences avant de rentrer chez elle. Une agression violente, donc. Les époux sont choqués mais tiennent bon, selon le maire de la ville, Guy Geoffroy, qui leur a rendu visite hier.
C'est du solide, les Tapies. Hein. C'est pas lui, il est bien sûr marqué, il est scandalisé, elle aussi. C'est bien sûr un choc moral, un choc émotionnel considérable, mais ils sont debout et ils font face.
Les voleurs, eux, ont réussi à s'enfuir. Ils ont dérobé des montres, des bijoux et les téléphones de l'homme d'affaires. La police judiciaire de Versailles a été saisie de cette enquête pour vol aggravé avec violence et séquestration.
Précision de Damien Mestre.
Et puis complètement dingue, titre l'équipe, une magnifique victoire tricolore hier en sport mécanique.
Les amateurs de MotoGP ont vibré en voyant deux Français finir en tête du Grand Prix de Doha au Qatar, Fabio Quartararo et Johan Zarco, qui redonne des couleurs à cette discipline. Axel May nous raconte.
Un podium pour l'histoire. Deux Français sur les deux plus hautes marches. Jamais encore la moto tricolore n'avait connu une telle réussite. Vainqueur de la course, Fabio Quartararo, 21 ans, devenu cette saison pilote officiel chez Yamaha, à la place de la star Valentino Rossi, et depuis ses débuts sur les circuits présenté comme un prodige. Johan Zarco, 30 ans, au talent plus laborieux, a tout de même été champion du monde à deux reprises dans la catégorie inférieure. Et en MotoGP, ce deuxième podium en deux courses au guidon de sa Ducati lui permet de prendre la tête du championnat du monde. Quartararo, Zarco, un duo de pilotes que connaît par cœur Claude Michi, promoteur du Grand Prix de France.
C'est des garçons qui sont fantastiques, qui travaillent beaucoup, c'est pas le fait du hasard. Et c'est génial pour la moto en France. C'est une grande journée pour le sport français. Très très grande journée.
Cette saison, Zarco visera assurément la première victoire de sa carrière en MotoGP. Quartararo, lui, espère carrément devenir le premier Français champion du monde dans la catégorie reine.
Eh ben, on va les suivre et ces deux pilotes vont courir sur leur terre mi-mai. Ce sera lors du Grand Prix de France.
Et on ne le ratera pas, effectivement. Merci, c'était le journal de François Geffrier. Il est bientôt 6h39.
Europe 1.
L'heure d'accueillir l'invité de ce 5-7. Bonjour Yannick Moreau.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes le maire d'Hiver Droite des Sables d'Olonne en Vendée. On a entendu encore dans ce journal beaucoup de Français profiter de la tolérance des déplacements ce week-end pour aller prendre un bol d'air et de soleil sur les plages. Et l'inquiétude aussi des habitants des littoraux, comme ici dans le sud-est.
Par rapport à la situation sanitaire, oui, ça fait peur. Je peux comprendre qu'ils aient envie de venir chercher le soleil, la mer, je peux comprendre. Après, j'attendais qu'une chose, c'est qu'on limite les 10 km. Comme ça, on n'est pas envahi, justement.
Alors, y a-t-il eu ruée vers l'air chez vous aux Sables d'Olonne? Quel bilan touristique et sanitaire tirez-vous de ce week-end de Pâques? On voit ça avec vous dans quelques toutes petites secondes. À tout de suite. Et à 6h40, Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne, est donc avec nous. Votre ville, monsieur le maire, est une destination privilégiée par de nombreux citadins venus de Bretagne, des pays de la Loire, d'Île-de-France, avant l'entrée en vigueur des restrictions de déplacement ce soir à 19h. Quel bilan vous tirez de ce week-end? Est-ce que ça a été la ruée attendue sur les sables?
Bon, ça a été un week-end d'une grande affluence, mais comme la plupart des week-ends de Pâques, lorsqu'il fait beau temps, c'est vrai qu'on accueille toujours beaucoup de monde dès que le soleil est là, et là ça fait une semaine qu'il est là. Il n'y a pas eu d'effet majeur encore perceptible de ruée de réfugiés des métropoles vers les Sables d'Olonne, mais on va voir dans quelques jours si l'affluence reste élevée ou pas.
45 000 habitants en temps normal, là, sur les derniers jours, vous pensez en avoir gagné combien ?
Je pense qu'on était 65 ou 70 000, quelque chose comme ça, parce qu'il y a environ 16 000 résidences secondaires au Sable, et donc il y avait pas mal de résidences secondaires qui ont réouvert leurs volets ce week-end.
Est-ce que ça vous porte à croire justement que vous allez servir de refuge un petit peu plus durable pour certains, voilà, pour les 4 semaines de confinement peut-être qui démarrent?
C'est tout à fait possible, c'est ce qui s'était un peu passé l'année dernière, et c'est bien logique quand on vit dans un appartement d'une grande ville qu'on ait envie de se mettre au bleu au Sable d'Olonne. Ça suppose simplement d'être particulièrement prudent parce que il faut éviter la circulation du virus, et quand on vient d'une région plus touchée vers une région moins touchée, il faut considérer qu'on peut être porteur de la Covid et faire attention quelques jours, bien respecter les gestes barrières, et quand on fait ça, les choses se passent bien.
Justement, les gens ont le droit de venir profiter du bon air des Sables d'Olonne. Il y a une tolérance jusqu'à ce soir 19h pour les déplacements. D'un point de vue sanitaire, vous n'avez pas l'air trop inquiet. Vous avez eu des alertes ou pas de rassemblements qui auraient pu inquiéter?
Je ne suis pas inquiet, mais je suis très vigilant et très prudent parce que, vous savez, les Sables d'Olonne, c'est pas la région parisienne, par exemple. Et au Sables d'Olonne, on a un hôpital, mais on n'a pas de lit de réanimation au Sable. Les seuls lits de réanimation en Vendée, ils sont à La Roche-sur-Yon et ils sont déjà saturés. La Vendée a commencé à exporter des malades vers les hôpitaux d'Angers et de Nantes. Donc, on a un système de soins qui n'est pas dimensionné pour traiter beaucoup plus de cas Covid.
On entend vos consignes de prudence. Est-ce que vous avez aussi eu des moyens en plus pour contrôler, pour sécuriser, comme d'autres villes qui ont reçu le soutien de compagnies de CRS, par exemple, pour appuyer leur police municipale? Je pense à La Baule, un petit peu plus au nord, à 130 km de chez vous.
Ouais. Le ministère de l'Intérieur a l'habitude d'envoyer des CRS à La Baule, mais un peu moins au Sable d'Olonne. Si jamais il y en a disponibles, on les prend, y compris cet été d'ailleurs, c'est toujours un sujet pour nous. Non, nous avons compté sur nos seuls moyens en mobilisant notre police municipale et en mobilisant des médiateurs. Il y avait une quinzaine de médiateurs qui étaient sur le terrain, et notamment sur le front de mer pendant tout le week-end, de manière à encourager les gens à bien respecter les distances de précaution sanitaire, à porter le masque, à faire en sorte que tout se passe bien. D'ailleurs, ils ont reçu un très bon accueil parce que c'est tellement logique que ça se passe de cette façon-là.
Vous aviez demandé, vous Yannick Moreau, à ce que les déplacements interrégions soient limités dès ce week-end de Pâques et même avant qu'ils soient interdits, vous n'avez pas été entendu.
Je pense que ça aurait été très utile de le faire beaucoup plus tôt dans l'année, de manière à limiter la flambée du virus avec les variants au mois de mars. Si on avait fait ça dès le mois de février, on l'a réclamé, nous, beaucoup, et limiter les déplacements interrégions pour des raisons qui ne seraient pas purement professionnelles, on n'aurait sans doute pas été dans la situation d'aujourd'hui. Et donc maintenant, avec les nouvelles règles qui s'appliquent au mois d'avril, on va assister à quelque chose de comme ça, mais encore un peu entre deux, puisque on nous dit qu'on peut aller déposer ou rechercher les enfants chez les grands-parents. Il y a un message qui est un petit peu brouillé. Oui. On a lancé un pseudo-confinement avec un week-end en disant non, mais on contrôlera pas ce week-end. Et puis après, on lance un pseudo-confinement avec des possibilités de déplacement. C'est pas très clair. J'espère que ce manque de clarté va quand même produire des effets sanitaires, parce qu'on a vraiment besoin que cette période de restriction de liberté soit la dernière et qu'on retrouve à partir du mois de mai de nouvelles libertés et une vraie saison. C'est ce qui compte pour nous, une station balnéaire comme les Sables d'Olonne.
Des volets qui s'ouvrent justement dans les résidences secondaires depuis quelques jours. C'est pas encore la ruée, mais vous voyez quand même arriver un petit peu plus de monde depuis une semaine. Je me trompe pas, Yannick Moreau, en disant que les indicateurs sanitaires, le taux d'incidence notamment, ont eux aussi commencé à évoluer chez vous depuis une quinzaine de jours maintenant.
C'est tout à fait vrai. On a été très privilégié pendant longtemps avec des taux d'incidence très bas au début du mois de mars. On était même à moins de 50 pendant très longtemps, même après les arrivées du Vendée Globe. Vous voyez, quand on fait attention sur les arrivées, ça se passe bien. Mais depuis une dizaine de jours, on est même arrivé à 300 sur 100 000. Et donc, on est dans la norme, entre guillemets, nationale, ce qui n'est pas une réjouissance, qui est aussi clairement l'effet des derniers week-ends et de la circulation du variant anglais qui, semble-t-il, est nettement plus contagieux.
Est-ce que c'est aussi quelque chose, cette dégradation sanitaire, que vous aviez vu en Vendée lors des premiers et deuxièmes confinements avec des arrivées venues d'autres régions ?
Oui, c'était arrivé et c'est pour ça d'ailleurs que l'année dernière, dans la période de confinement strict du mois de mars l'année dernière, j'avais même pris un arrêté d'interdiction des locations touristiques parce que compte tenu de la faiblesse de notre système de santé local où je vous disais on n'a pas de lit de réanimation au Sable et très peu en Vendée, on n'avait pas la capacité d'absorber les poussées épidémiques qu'il y avait à l'époque. Et donc effectivement, c'est un risque qui demande à chacun d'être prudent. On peut vivre et il peut y avoir des mouvements de villes vers les zones moins touchées et vers la côte atlantique et vers les Sables d'Olonne, mais à condition d'être très très vigilant et de considérer qu'on peut être porteur du virus lorsqu'on arrive. Et il faut simplement prendre les précautions de se protéger les uns les autres.
Rapidement, Yannick Moreau, qu'est-ce que vous dites alors ce matin à ceux qui vont rester des sablés d'adoption pour peut-être les semaines qui viennent ?
Eh bien, je leur demande, sablés d'adoption ou sablés résidents permanents, je leur demande d'être vigilants et de se protéger les uns les autres. Et c'est la condition sine qua non pour retrouver nos libertés dans un mois et retrouver un bel été. On a besoin d'être responsables. C'est pas les médiateurs municipaux ni la police municipale et les amendes qui régleront l'épidémie. C'est le comportement individuel de chacun dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle qui permettra de faire reculer la circulation du virus.
Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Yannick Moreau, maire d'Hiver Droite des Sables d'Olonne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.
Europe 1.
À 6h47, l'innovation du jour arrive dans votre 5-7. Anissé Mbida s'est installée. À tout de suite. À 7h10, dernières heures de tolérance pour les déplacements entre régions avant 4 semaines de restrictions sur toute la métropole à partir de ce soir 19h. On compte aujourd'hui plus de 5300 personnes soignées en réanimation. Bernard Tapie et son épouse agressés lors d'un cambriolage dans la nuit de samedi à dimanche dans leur maison de Comble-la-Ville en Seine-et-Marne. Ils ont été ligotés avec des câbles électriques. Les voleurs sont repartis avec des montres et des bijoux. Plus de 70 morts en Indonésie après des pluies torrentielles qui ont entraîné des inondations et des glissements de terrain. Il y a encore plusieurs dizaines de personnes disparues ce matin. Et puis en MotoGP, un exploit historique pour les Français Quartararo et Johan Zarco, respectivement vainqueurs et deuxième du Grand Prix de Doha au Qatar, un podium inédit pour des pilotes français depuis 1954. À 6h50, l'heure de découvrir votre innovation du jour, Anissé Mbida, comme chaque matin. Bonjour Anissé.
Bonjour Théo.
Je me remets les idées à l'endroit. Innovation aujourd'hui en matière de sécurité routière. Pour éviter les accidents avec des piétons ou des vélos, on aura bientôt, Anissé, des capteurs dans les rues qui seront capables de prévenir les voitures en cas de risque de collision.
Oui, parce qu'aujourd'hui, dans les centres-villes, entre les scooters, les trottinettes, les piétons qui traversent,
ça arrive un peu de partout.
Voilà, il faut avoir les yeux vraiment dans tous les sens. Donc, pour aider les automobilistes à être un peu plus vigilants, on commence à installer des sortes de radars sur les réverbères, les abribus et les feux rouges. Ils vont surveiller les vitesses, les trajectoires aussi bien des piétons que des vélos. Et dès qu'il y en a un qui risque de croiser la route d'une voiture, eh bien bip 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 bip, tous les véhicules concernés vont recevoir une alerte sur le tableau de bord. Leur freinage d'urgence pourrait même être déclenché automatiquement. Et ça, c'est vraiment une nouvelle approche de la sécurité routière, puisqu'en mettant le système de détection en dehors de la voiture, eh bien on met tout le monde à égalité. Ce ne sont plus seulement les voitures les plus chères, celles qui sont le mieux équipées, qui auront la capacité de détecter un piéton ou un vélo en perdition.
Oui, mais il faut quand même un équipement dans la voiture pour les recevoir, ces alertes extérieures.
Bien sûr, mais ce sera beaucoup beaucoup moins cher que d'installer des caméras ou des capteurs de proximité sur toutes les voitures. Quant à celles qui existent déjà, eh bien, elles pourront recevoir ces alertes soit via la radio, hein, la fonction RDS, hein, l'alerte trafic, ou tout simplement via une application sur téléphone portable. Donc ce sera beaucoup plus accessible que les systèmes actuels, hein, qui sont malheureusement réservés aux voitures les plus haut de gamme. C'est une technologie qui a été mise au point par l'Institut Fraunhofer en Allemagne. Et elle pourrait devenir obligatoire sur l'ensemble des véhicules, parce qu'on le rappelle, hein, c'est le Parlement européen qui recommande de limiter la vitesse à 30 km/h dans les centres-villes. Pourquoi ? Eh bien pour réduire la gravité d'éventuels accidents avec les piétons.
À quand bientôt des réglementations européennes et des radars comme ça pour éviter les collisions partout en Europe ? Merci beaucoup Anissé Mbida. À demain pour l'innovation du jour.
La Caisse d'épargne vous présente la revue de presse internationale. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Ils sont nos yeux et nos oreilles sur tous les continents. Les correspondants d'Europe 1 nous attendent pour votre revue de presse internationale. Et on commence au Japon ce matin avec vous Bernard Delattre, bonjour.
Bonjour Théo.
Qu'est-ce qui fait la une à Tokyo ?
La nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus. Et ici, c'est déjà la quatrième. Pour le journal Asahi, vu la vitesse de propagation des variants, cette vague s'annonce encore plus violente et meurtrière que les précédentes. Or, la vaccination des personnes âgées n'a même pas encore commencé, s'affole le Mainichi. Le Sankei Shimbun se demande si on ne devrait pas à nouveau décréter l'état d'urgence, vu que, selon lui, comme on n'a pas tiré les leçons des vagues précédentes, ça va de nouveau être le chaos dans les hôpitaux. « Nous sommes à la croisée des chemins », résume le journal conservateur Yomiuri. L'heure est grave, donc, pour toute la presse, et pendant ce temps, le relais de la flamme olympique parcourt le pays. Il attire des foules considérables et provoque souvent des attroupements qui sont dangereux en termes sanitaires. Oui, mais ça, les grands quotidiens ne le soulignent pas, et pour cause, ils sont sponsors de l'événement.
Effectivement, Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1, direction l'Inde, à présent, où l'on retrouve Com Bastin. Bonjour Com.
Bonjour Théo.
Qu'est-ce qui occupe les journaux à New Delhi ?
Ici, c'est la guerre larvée et méconnue du gouvernement contre les rebelles maoïstes en Inde centrale qui fait la une. Et pour cause, au moins 22 militaires ont été tués au lance-roquettes et à la mitrailleuse ce samedi, raconte India Today. Selon le Time of India, un important déploiement armé est procédé à une opération de sécurisation à la frontière des États de l'Orissa et du Chhattisgarh, qui sont deux bastions des insurgés. C'est alors qu'ils ont été surpris par des tirs croisés. 31 militaires sont actuellement hospitalisés et un est porté disparu. Le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l'Intérieur ont rendu hommage ce dimanche aux martyrs. Outlook India rappelait vendredi qu'après 50 ans d'affrontements et de représailles, la rébellion maoïste, qui affirme lutter pour le droit des peuples tribaux, était toujours bien vivace en Inde. Ce week-end lui a tristement donné raison.
Com Bastin, correspondant Europe 1 en Inde. Et on termine ce tour du monde au Sénégal avec vous, Margot Chevance. Bonjour Margot.
Bonjour Théo.
De quoi est-ce qu'on parle chez vous à Dakar ?
Eh bien c'est la jeunesse, car c'est à elle que s'est adressé directement samedi le président Macky Sall à l'occasion des 61 ans d'indépendance du pays. Le journal en ligne Dakar Actu détaille le plan présenté par le chef de l'État. 120 millions d'euros débloqués d'ici mai pour créer 65 000 emplois pour les jeunes. Ces annonces, eh bien, elles interviennent dans un contexte particulier, rappelle le site d'information Sénéweb, tout juste un mois après les violentes manifestations qui ont secoué le pays suite à l'arrestation de l'opposant politique Ousmane Sonko depuis libéré. Une arrestation qui a été, lit-on dans l'éditorial de Khalima.com, le catalyseur de l'expression violente d'une longue et pénible misère de la jeunesse. Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, le discours du président fait aussi grincer des dents. Les jeunes ont perdu toute confiance en ce pays. Déjà en 2019, on nous promettait 1 million d'emplois, commente un internaute aux milliers de followers.
Margot Chevance, correspondante Europe 1 au Sénégal. Votre fenêtre sur le monde avec les correspondants d'Europe 1, c'est tous les matins avant 7h.
C'était la revue de presse internationale avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Europe 1.
6h55, la météo et le journal de 7h arrivent dans quelques secondes avec Mathieu Béliard pour le 7-9. A tout de suite.